Monsieur Roméo Gribingui, bonjour.
Bonjour, bonne aventure.
Le ministère du contrôle général du secteur parapublic a annoncé vendredi dernier la prolongation de l'avis à manifestation d'intérêt pour la privatisation de la centrale Palme. Pourquoi ?
Ce comité, qui a été mis en place par arrêté en octobre 2017, a fait un travail d'audit de la centrale Palme, une société d'État dont le capital est détenu donc par l'État à 100%. Cette société qui fait face à une situation de cessation de paiement et des difficultés de gestion depuis plus d'une décennie. Donc le gouvernement a décidé à ce que la centrale Palme soit privatisée. Sur la base de ce travail fait par le comité, il a été proposé au gouvernement différentes options. Le comité avait lancé un avis à manifestation d'intérêt en novembre 2019 qui a permis donc d'enregistrer deux dossiers. Un dossier pour une société de la place, Lusaka, et un autre dossier concernant M. Fernando Leal qui est un particulier et donc qui a payer les frais et à retirer le dossier. Toutes les crises, que ce soit sanitaire ou bien sécuritaire, a empêché aussi le bon fonctionnement du dit comité. En avril 2019, le comité a rendu son rapport final au premier chef du gouvernement. Deux dossiers enregistrés. En septembre 2021, le comité a relancé ses travaux et a décidé donc de lancer un deuxième avis à manifestation d'intérêt pour permettre d'augmenter le nombre de soumissionnaires. À l'issue de cette opération, il s'avère que l'opération est infructueuse. Mais malgré tout, sur instruction du premier chef du gouvernement, nous avons procédé à un dépouillement le 23 décembre 2021 en présence des deux soumissionnaires. On a constaté qu'ils ont retiré le dossier, mais malheureusement, ils n'ont pas formulé d'offre formelle à l'endroit du comité nous permettant de transmettre le compte-rendu du dépouillement au gouvernement pour décision. J'avais instruit l'huissier qui était présent, le maître Dameo, de dresser un procès verbal de carence, comme quoi les deux soumissionnaires n'ont pas formulé d'offre. Dans l'attente des directives des hautes autorités de la République, nous avons sursoi donc aux travaux du comité. Et donc, sur instruction du Premier ministre, il nous a donc été instruit de relancer les travaux du comité. Pour la troisième fois, on a lancé un avis à manifestation d'intérêt pour la période du 15 septembre au 14 octobre. Jusqu'à ce jour, on n'a enregistré que les deux dossiers. Les offres ne sont pas formellement ficelées et déposées auprès du comité. Et donc, un compte-rendu fidèle a été transmis au Premier ministre. Nous avons reçu instruction de proroger pour permettre également aux derniers qui se sont manifestés à monter leur offre pour proposer au gouvernement.
Quelle serait la situation des anciens travailleurs de la centrale Palme lorsqu'elle sera privatisée ?
Le comité a pris le soin, en fonction de la législation en vigueur, de négocier avec les syndicalistes, en fait ceux qui représentent les ex-salariés de la centrale Palme, afin d'obtenir un licenciement collectif. Et donc ça a été négocié et depuis fin 2019, l'ensemble des salariés ont été mis au chômage en attendant la liquidation des droits légaux. Leurs droits ont été calculés et inscrits au passif de la société. Ça fait partie des conditions qui vont rentrer en jeu lors des négociations en vue de la reprise de Centrale Palme. Mais on a également pris la précaution de mettre en place un service minimum. Le service minimum, c'est au moins une quarantaine de personnes qui travaillent, qui gèrent l'usine, qui protègent l'usine et qui font également du désherbage et la protection des plantations en attendant la reprise par un investisseur stratégique. Ce service minimum est pris en charge sur le budget de l'État qui travaille jusqu'à aujourd'hui, au jour où je vous parle. Deux des responsables de ce service siègent également au sein du comité de privatisation et donc rendent compte à la base à chaque fois que des grandes décisions sont prises.
Quel est l'effectif total des employés de la centrale Palme qui attendent d'être régularisés?
Nous sommes à peu près à 300 personnes maximum.
L'Enerca, la Sodeca et la Socatel sont inscrites à la bourse de la CEMAC. Pourquoi et qu'est-ce que cela peut apporter de nouveau à la République centrafricaine?
L'Enerca, la Sodeca et Socatel, qui sont des entreprises publiques, sont cotées à la bourse de la CEMAC. Ça, c'est une disposition qui existe. Du fait que nos entreprises soient cotées en bourse, ça permet également de faire des placements en fonction des revenus, s'il y a des excédents qui se dégagent en fonction de l'exercice comptable de l'année écoulée, ça permet de dégager aussi des bénéfices et ces bénéfices pourront être placés. Mais il y a aussi bien d'autres avantages, mais d'ordre financier.
Quel est l'apport de l'ONASPORT dans la réhabilitation des structures sportives centrafricaines?
L'ONASPORT, c'est l'office national qui gère tout ce qui est infrastructures sportives en République centrafricaine, une des structures qui relève du secteur parapublic, une structure qui bénéficie également de trois tutelles. Donc l'ONASport est placé sous la tutelle technique du ministre de la Jeunesse et des Sports, sous la tutelle financière du ministre des Finances, également sous la tutelle de contrôle de gestion du ministre contrôleur général du secteur parapublic. Une structure qui fait la promotion des infrastructures sportives, qui gère et puis qui rend compte aussi à un conseil d'administration. C'est une structure qui bat des ailes depuis quelques années par manque d'infrastructures, une structure qui ne touche pas aujourd'hui une subvention de la part de l'État. Donc un travail est en train d'être fait. Je reprécise que le 2 septembre dernier, j'étais au niveau du stade 20 000 places. J'avais instruit le conseil d'administration et la direction générale de l'ONASport de convoquer une réunion avec tous les locataires avec qui on a échangé dans le sens de les pousser, de les motiver à répondre également à leurs obligations en tant que locataires. Donc ils ont signé un contrat. Il est donc de leur devoir d'honorer également à ces engagements-là.
Que pouvez-vous faire concrètement pour un aménagement attendu dans un délai raisonnable?
Un aménagement de quoi par exemple?
Un aménagement de l'aire de jeu complètement dégradée et puis tous les établissements qui encombrent l'entourage du complexe sportif Barthélémy Bouganda, vivement critiqué par la FIFA.
Ça relève en partie de la tutelle technique. J'ai parlé des trois tutelles. La tutelle technique, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. La tutelle technique porte la politique du secteur. Donc il appartient au ministre de la Jeunesse et des Sports de vous dire à peu près quels sont les dossiers, quelles sont les avancées en termes de réhabilitation. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, j'arrête pas de prodiguer des conseils, puisque nous, on se contente uniquement de la partie contrôle de gestion. Tout ce qui est entrée de fonds, les dépenses engagées, également le respect des textes, hein, dans le cadre de recrutement ou même des contrats signés entre ONASport et d'autres structures ou bien des individus, nous on fait ce suivi-là. Mais toute la partie technique, la politique du secteur, c'est porté par le ministre de tutelle technique.
Mais si vous faites des suivis réguliers, pourquoi d'aucuns disent que les responsables de l'ONASport sont à l'origine de beaucoup de détournements financiers?
Dire qu'il y a des détournements financiers, il appartient donc à ceux qui ont tenu ces propos d'en apporter les preuves. On a une équipe qui travaille, qui fait du contrôle a posteriori. De manière régulière, les contrôles se font pour vérifier. De l'autre côté, c'est un office qui fait face à des difficultés et ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. La plupart des ressources de l'ONASport proviennent des frais de location. Et aujourd'hui, faites le tour, moi j'ai un État. J'ai été rencontrer les locataires, j'ai un État en fonction des structures qui sont louées, des particuliers et autres. Beaucoup sont ceux-là qui ne sont pas patriotes. J'ai passé le message parce que quelle que soit l'activité menée par la personne, du moment où il y a un contrat entre les deux parties, chaque partie a l'obligation de respecter ses engagements. Malheureusement, certains de nos compatriotes qui ont eu accès aux locaux gérés par ONASport n'honorent pas leur engagement. Et ça, je l'ai dit, ça a été compris. Ils sont en train d'innover. Il y a des propositions qui ont été faites, séances tenantes qui vont être exécutées à partir du mois de janvier 2020.
Vous avez aussi parlé de contrat d'affermage. Que signifie ce terme?
Quand on rentre dans le contrat d'affermage, l'entreprise qui va reprendre la société, c'est le fermier. L'ensemble du bien appartient toujours à l'État. C'est l'État qui est toujours propriétaire, mais la gestion va être octroyée à une autre structure qui vient juste piloter. Et c'est un peu à l'exemple de la Socatraf que vous connaissez, qui est également en contrat d'affermage avec l'État. Donc l'ensemble des biens appartiennent à l'État, mais l'État, dans un contrat de partenariat, décide de louer à un fermier. C'est le fermier qui va gérer sur 10 ans, sur 15 ans, 20 ans. À la fin du contrat, l'ensemble des biens reviennent à l'État. Là, on parle d'un contrat d'affermage.
Monsieur Roméo Gribingui, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.